on est sur un site qui bague depuis 1988. Donc on a 30 ans d'activité à la station. Et l'autre particularité, c'est qu'on arrive à baguer sur une période relativement longue, puisqu'on bague du 1er juillet au 31 octobre. De cette manière, on couvre toute la période de migration des oiseaux migrateurs dits longue distance, donc ceux qui partent en Afrique pour hiverner. On arrive à détecter l'arrivée des premiers individus, le pic de migration et à relever quand est-ce que partent les derniers, quoi, finalement. Hein.
Plus les populations qui restent sur place.
Et en même temps, voilà, on bague les oiseaux dits locaux, dont la panure à moustache qu'on attend avec impatience. C'est un peu la star du marais aussi.
Et sur l'ensemble de la campagne, vous aurez eu combien d'oiseaux à peu près ?
Pour une saison de bagage de 4 mois, on va baguer en moyenne 8000 oiseaux pour une saison. Mais déjà, arrivé là fin octobre, cette année, on a déjà bagué 11500 oiseaux. Donc on est sur une très bonne année de bagage, c'est une très bonne année de capture, puisque on est au-dessus de la moyenne là déjà.
Comment ça se fait ça ?
Il y a plusieurs raisons à ça. Hein. Déjà, on a eu un été très favorable à la capture. Donc des vents de nord, nord-est, qui nous amènent les oiseaux. Hein, il ne faut pas oublier qu'à l'échelle de l'Europe, la Bretagne, c'est une péninsule. Hein. C'est un cap dans l'Atlantique. Et pour que les oiseaux arrivent jusqu'à nous, jusqu'au Finistère, eh bien, il faut que les vents de nord, nord-est, les poussent jusqu'ici. Donc des conditions anticycloniques favorables au bagage. Et puis on peut imaginer une bonne saison de reproduction également. Quoi. Parce que le gros des troupes, ce sont essentiellement de jeunes oiseaux que nous baguons. Des oiseaux de première année, donc qui sont nés ce printemps et ce début d'été.
Voilà. C'est eux qui se font attraper en fait, parce qu'ils sont novices.
Ils sont novices et puis c'est le gros des troupes finalement. Puisque pour deux adultes, on va avoir 4, 5, voire 6 jeunes. Donc à l'automne, au moment de partir... les populations sont représentées essentiellement par de jeunes oiseaux.
Et vous baguez depuis combien de temps ?
Ça remonte à quelques années déjà, puisque moi je me suis formé au bagage en 2001. Alors là j'étais au Sénégal. L'objectif c'était de capturer des oiseaux africains, des tisserins, pour faire du suivi, des prélèvements de sang et des prélèvements de parasites. Je suis revenu en France, mais j'ai eu envie de mettre à profit cette expérience de démaillage, on va dire, en faisant du bénévolat à Trinvel. Donc je suis venu faire du bénévolat en été 2002, ici. Et puis en 2004, je suis revenu pour faire aide-bagueur en bénévole indemnisé, voilà, sur toute la saison de bagage, pour aider les bagueurs à tenir le camp. Et puis en 2005, j'ai passé ma qualification de bagueur. Et depuis 2005, je bague à Trinvel sous la responsabilité de Bretagne Vivante, puisque je suis chargé d'études à Bretagne Vivante.
Et la qualification, c'est combien d'années d'études ?
Voilà, non, ça c'est important. Aujourd'hui, il y a du monde autour de la table de bagages. Il se trouve qu'on est deux bagueurs qualifiés, c'est ça, qualifiés. Et avec nous, on a des aides-bagueurs. Donc pour pouvoir baguer un oiseau, il faut être titulaire d'une autorisation de capture délivrée par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et donc pour être titulaire de cette autorisation de capture, il faut se préparer. Alors c'est comme ça que les aides-bagueurs, au cours de leur formation, font valider un carnet de formation. Avec plusieurs modules, plusieurs niveaux, il faut qu'on ait au moins deux bagueurs qui valident les différents modules pour qu'une personne puisse se présenter à la qualification pour devenir bagueur. On va dire une formation moyenne, pour quelqu'un qui connaît déjà les oiseaux, il faut compter entre 4 et 5 ans.
Oui, parce qu'il y a plein de stages, en fait.
Alors, oui, il y a plein de stations en France, hein, de petits sites de bagages, mais on a quelques sites qui proposent des stages, officiellement, donc qui accueillent des gens pour les former. Moi, c'est mon cas. Ici, à Trinvel, que je prends des aides-bagueurs que je pourrais appeler expérimentés pour m'aider à tenir le camp, mais je fais toujours en sorte de prendre des débutants qui sont dans un objectif de formation, pour éventuellement devenir bagueur plus tard ou tout simplement pour apprendre à démailler les oiseaux.
Il y a combien de personnes alors, qui passent par Trinvel en gros par chaque année enfin,
Chaque année, en moyenne, on a une cinquantaine d'aides-bagueurs bénévoles qui viennent consacrer du temps à la station pour démailler les oiseaux, prendre des notes, Donc aider le bagueur à prendre des notes, puis aussi participer à quelque chose de très important qui est la saisie des données, parce que toutes ces données qui sont collectées là sur le papier sont rentrées dans l'ordinateur, sont informatisées pour ensuite être envoyées au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Donc on a 50 bénévoles comme ça à peu près par an qui passent comme ça, s'investir sur la station, ce qui représente quelque chose comme 450 jours de bénévolat pour 4 mois d'activité. Voilà, donc c'est plus d'une année de bénévolat pour faire fonctionner un site. Et à côté de ça, on a l'équivalent d'un salarié temps plein sur les 4 mois d'activité. Et pour nous seconder, on a aujourd'hui, voilà, cette année, c'est Anne Sillard, qui est en service civique et qui nous accompagne sur le volet de la station de bagages sur une période de 6 mois. Donc on va dire les 4 mois de bagages, plus 2 mois de travail sur l'analyse des données et la mise en valeur des données au travers d'un petit rapport de bilan, quoi.
Oui, parce que c'est pas le tout de baguer, mais à quoi ça sert ?
À quoi ça sert ? Et voilà, il y aurait plein de choses. Mais on pourrait demander, parce qu'il y a du monde aujourd'hui, à quoi ça sert ? On pourrait prendre comme ça des gens au hasard dans la foule.
Ouais. Je sais pas, suivre les migrations des oiseaux peut-être, à différents endroits, ouais.
Recenser aussi, et puis voir l'évolution du nombre d'oiseaux d'une année sur l'autre.
Alors, il y a des choses toutes simples. En posant une bague, on a vu qu'on posait des bagues sur des oiseaux dont on connaît l'âge. Notamment, là, on a beaucoup de jeunes oiseaux de l'année. Donc, si on les reprend les années suivantes, on aura connaissance de la durée de vie de l'oiseau. Donc ça, c'est déjà une première information.
Et juste pour nous donner une idée, un pouillot véloce, par exemple, ça vit combien de temps en moyenne ?
Eh bien, ce sont des moyennes de vie qui sont très courtes. Hein. On va être sur 3, 4, 5 ans. Voilà. Au-delà, c'est dur d'avoir des contrôles de plus de 7 ans là, sur mes panures et mes rousserolles. Les plus vieux oiseaux poussent jusqu'à 8 ans, mais ça va rarement au-delà, quoi. Et là, on est au-delà de la moyenne.
Durant le bagage, là, on voit qu'ils sont en train de mesurer les ailes, ouais. Etc. Donc ça sert à quoi ? À savoir l'âge aussi ou
La mesure d'ailes, elle va être intéressante à plusieurs niveaux. Déjà, elle va nous confirmer la biométrie de l'espèce. Après, elle va nous apprendre des choses, notamment, comme là, on a vu qu'on avait des migrateurs. On s'aperçoit qu'au cours d'une saison de migration, arrive un moment où on a de grands oiseaux. Généralement, plus on remonte vers le nord, plus on a des oiseaux d'une même espèce avec de longues ailes. Parce que ces oiseaux ont des trajets de migration plus longs à parcourir. Et d'où donc cette sélection naturelle qui les amène à avoir des ailes plus longues. Mais cette longueur d'aile, on va pouvoir aussi la croiser avec la masse, par exemple, pour obtenir un indice de l'état de santé de l'oiseau.
Vous évaluez leur santé, ouais, leur nombre, leur santé, qu'est-ce que vous faites d'autre encore ?
On a vu qu'on mesurait la masse, en relevant la masse à chaque capture. Et notamment ici, on a vu que nos oiseaux étaient en halte migratoire. Donc en fait ici, la station de bagages de Trinvel et les marais de la baie d'Audierne fonctionnent comme une aire de repos. Je vais en voyage, toutes les 3 heures je dois m'arrêter pour me reposer. Tous les 800 km, je vais devoir refaire le plein de la voiture. Mais les oiseaux, c'est pareil. Régulièrement, ils doivent s'arrêter, faire des pauses pour se reposer, recharger les batteries, refaire des réserves de graisse. Et cette graisse que l'on mesure par l'adiposité, en fait, hein, quand on souffle sur le ventre de l'oiseau, on la voit par transparence, c'est jaune. Voilà. Cette quantité de graisse, elle est évaluée de 1 à 4, hein, l'adiposité. Le fait de contrôler nos oiseaux va nous permettre d'évaluer ce que l'on appelle la halte migratoire. Et en comparant les poids entre l'arrivée et le départ, on va pouvoir évaluer ce qu'on appelle le gain de masse. Et donc finalement, est-ce que les marais de Trinvel sont une bonne aire de repos pour mes oiseaux ? Est-ce qu'ils ont réussi à prendre du poids pendant leur période de stationnement ? Ce sont des choses comme ça que l'on va regarder.
Et c'est justement la question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est bien ici ?
Eh bien, certaines années plus que d'autres. Voilà, parce qu'on va avoir des années où la roselière est riche en pucerons. Ce sont des années où les oiseaux vont pouvoir s'engraisser. Et d'autres moins. Donc voilà, c'est assez variable, c'est pas toujours régulier. Pour l'instant, on est sur des oiseaux insectivores comme le pouillot, la rousserolle. En saison, le phragmite des joncs, hein, et le phragmite aquatique, ce sont des oiseaux insectivores. Mais on parlait tout à l'heure du bruant des roseaux, de la panure à moustache. Le bruant des roseaux est un granivore. La panure à moustache, elle est insectivore en période de reproduction. et elle est granivore en hiver.
Donc les oiseaux peuvent changer de régime alimentaire au cours des saisons.
Certains, comme la panure, oui, c'est le cas. Par contre, un bruant des roseaux, lui, il est granivore tout au long de sa vie, quoi.
Et les granivores, qu'est-ce qu'ils peuvent manger ici ?
Eh bien, ça va dépendre des ressources alimentaires. Donc lui, le bruant des roseaux, en fait, donc il utilise surtout la roselière pour dormir et se reproduire. Et au petit matin, on voit les bruants des roseaux qui quittent la roselière, qui s'envolent pour aller faire une migration journalière. Ils vont se poser dans les champs pour manger les graines des graminées, tout simplement. Hein. On a un autre granivore qui est assez mignon, ici, qu'on attrape de temps en temps à la station de bagages, c'est la rémise penduline. Elle mange les graines du roseau, les graines des fleurs de roseau et les graines des fleurs de massette.
Et vous ne capturez pas du tout les oiseaux marins, enfin les gros oiseaux là, qui sont dans le coin, parce qu'on est quand même au bord de la mer, il faut le préciser.
Là, nous, on est spécialisés de par la nature des filets. On a des filets avec de petites mailles. On bague aussi dans un milieu où on va sélectionner les espèces. Donc les fauvettes paludicoles pour la roselière. Les oiseaux plus du bocage pour la partie en buisson. Donc voilà, on cible un peu les espèces que l'on capture. Et puis si d'aventure on avait un oiseau de forte taille qui se prenait dans le filet, les mailles étant trop petites, en général il repart. Bon, on arrive quand même de temps en temps à capturer des éperviers. C'est à peu près la taille maximum. Donc en baguant les oiseaux, on peut apprendre plein de choses. Puisque bon, entre bagueurs, on va du coup s'échanger les oiseaux. Hein. Nos oiseaux qui partent d'ici vont être recapturés sur d'autres sites. Donc on va comme ça retracer, redessiner des trajets de migration. On va pouvoir calculer des temps de vol, des distances aussi, voir comment la masse a évolué au cours de cette migration. Donc combien est-ce que l'oiseau a consommé pour du coup pouvoir faire son trajet. Et grâce à notre activité sur une longue période, on a cherché à voir si nos oiseaux passaient toujours aux mêmes dates. Donc on a travaillé sur les dates médianes de passage et on s'est rendu compte que le pic de passage, le pic de migration pour pas mal d'espèces, il arrive, il est de plus en plus précoce.
On aurait pu croire le contraire.
Mais, dans le cas du phragmite aquatique, par exemple, c'est vrai. Donc, le phragmite aquatique migre de plus en plus tard. On a de plus en plus d'individus qui passent en deuxième période de migration. Mais par exemple, pour le phragmite des joncs, c'est l'inverse. On a des départs qui sont de plus en plus précoces. Quand on travaille sur des périodes de 10 ans, ça fait déjà 3 jours d'avancée. Et ce sont des réponses qu'on peut mettre en relation avec le changement global. Mais c'est aussi ce qu'on peut observer avec des arrivées plus précoces sur les sites de reproduction. Donc des oiseaux qui ont terminé leur reproduction plus tôt. Et des oiseaux donc, du coup, qui sont prêts à partir plus tôt.
Qu'est-ce que vous avez observé d'autre, justement, à votre avis, en relation avec le changement climatique ou avec les pratiques agricoles locales ? Est-ce que vous avez observé d'autres événements ?
Bon, on note aussi l'arrivée de nouvelles espèces. Donc la bouscarle de Séti, par exemple, c'est un oiseau qui est arrivé dans les années 80, qui voit ses populations augmenter et puis se renforcer là, autour de la station de bagages. Et c'est vrai que là, on a une progression qui est constante et régulière chez la bouscarle de Séti. En 2008, on a vu arriver le gorge bleu à miroir, qui est un oiseau qui est très bien représenté dans les marais salants de Vendée, Charente-Maritime, qui est aussi présent dans les zones humides du Morbihan et qui en limite d'air là au niveau du Finistère. Et lui, il est encore timide, hein, le gorge bleu à miroir. Et à l'inverse, on a des données assez alarmantes, par exemple sur la locustelle lucignoïde, qui est un oiseau spécialisé dans les roselières inondées, où les données de bagages ont montré que la population est en chute libre depuis quelques années. Pour nous rassurer, on voit que cette année, la reproduction a été très bonne. Donc on peut espérer un retour en force de la locustelle lucignoïde dans les roselières de la baie d'Audierne.
Les causes de disparition d'oiseaux, ça peut être quoi en fait, quand un oiseau n'est plus présent ?
Cette année, les médias ont mis l'accent quand même sur l'effondrement des populations des oiseaux communs. Et c'est vrai que dans nos campagnes, campagnes d'Europe, on a de moins en moins de contacts d'oiseaux chanteurs dans nos bocages et nos zones agricoles. Donc là, je pense que le lien à faire, il est directement avec les pratiques agricoles, et notamment l'usage des pesticides. Mais après aussi, on a des oiseaux qui sont sensibles au réchauffement. Le Puyophytis, par exemple, hein, c'est le cousin du Puyovelos là qu'on a. Puyophytis qui lui est cantonné maintenant en Bretagne au soleil des monts d'Arrée, donc c'est encore les zones froides des monts d'Arrée, hein. Et donc lui il voit ses populations diminuer comme ça.
Il y a des disparitions d'habitat peut-être aussi, non, en cause ?
Ah oui, bien sûr. Hein, tout ce qui est remembrement, remaniement des paysages agricoles joue énormément dans nos cortèges d'espèces, sur la répartition de nos espèces. Et effectivement, plus on ouvre les milieux et plus on sélectionne, quoi, on va dire, vers le bas. Hein. Les milieux les plus riches, ce sont les milieux les plus complexes. Les alternances de boisements, de haies, de milieux ouverts, de prairies. Et on voit que ces paysages qui sont lissés accueillent de moins en moins d'oiseaux.
Et par exemple, un endroit comme Trinvelle, y a des espèces qui ne peuvent vivre que dans ce type d'endroit.
Ah oui. Voilà. Donc là, ce sont les marais de la baie d'Audience, ce sont des réservoirs de biodiversité. Plus de roselières, si on n'a plus de roselières, on n'a plus de panures. On n'a plus de panures, on n'a plus de locustes hallucinoïdes, on n'a plus de rousserolles et farvates. Donc on a vraiment des oiseaux, des espèces qui sont spécialisées dans les roselières.